Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport. C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là en ce début de semaine. Je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M. Le 4 décembre prochain, l'Institut universitaire en gériatrie de Montréal va offrir gratuitement une conférence sur la nutrition des personnes âgées, à savoir les mythes et les réalités de la nutrition des personnes plus âgées. En deuxième partie d'émission, afin de nous donner un petit peu l'eau à la bouche, Michel Huysson-Cartier, lui qui est coordonnateur au service de nutrition clinique de l'Institut universitaire en gériatrie de Montréal et également l'animateur de cette conférence sera là pour nous en parler davantage. Mais d'abord, vous le savez peut-être, depuis quelques années, le taux de prévalence du trouble du spectre de l'autisme a augmenté, et ce, au niveau mondial. Il y a des recherches qui tentent de dire qu'il y a une personne sur 100 qui vit avec ce trouble-là. À quoi cette augmentation-là est due? Difficile de le cerner précisément. Il y a différents facteurs. Ils sont nombreux également. Est-ce que c'est un meilleur dépistage? Est-ce que c'est dû à certaines conditions environnementales? Ce que l'on sait, par contre, c'est que les jeunes, notamment ayant un TSA, ont 40 % plus de probabilité d'être obèses qu'un jeune sans cette limitation-là. Et c'est une situation qui est due à plusieurs combinaisons, à savoir un manque d'exercice, un manque d'activité physique et également à des habitudes alimentaires qui sont plus particulières, également plus sélectives. Marie-Michèle Duquette, étudiante à la maîtrise en loisirs, culture et tourisme à l'Université du Québec à Trois-Rivières, est membre de l'équipe de recherche associée au projet Choisir de gagner et elle nous parle de comment inciter les jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme à faire du sport. Bonjour Marie-Michèle.
Bonjour.
Est-ce qu'il fait beau à Trois-Rivières?
En fait, je suis présentement à Shawinigan, mais oui, il fait très beau.
C'est pas la première fois qu'on se parle, nous deux, hein?
Non, c'est pas la première fois.
Ah, je m'en rappelais. Vous êtes au sein de l'équipe Choisir de gagner et en 2012, vous avez dressé un portrait de la situation de ces jeunes-là dans différentes écoles du Québec par le biais de conversations, que ce soit avec des enfants, des parents d'enfants autistes, également mm-hmm. des intervenants qui travaillent auprès de ces jeunes-là. Et vous avez pu mettre en lumière tous les effets bénéfiques de l'activité physique sportive auprès de ces jeunes-là, mais également les contraintes. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'en font peut-être pas suffisamment et ce que l'on peut faire pour éliminer, amenuiser ces contraintes-là? On va parler de ce rapport de recherche d'études-là aujourd'hui, mais mm-hmm. d'abord, pour mettre un petit peu la table ensemble, Marie-Michèle, c'est quoi les caractéristiques principales des jeunes qui vivent avec un TSA?
Ben, en fait, un des troubles qui est vraiment... En fait, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le spectre de l'autisme, c'est qu'il y a deux déficits qui sont plus présents, qui est un déficit au niveau de la communication et au niveau des interactions sociales, et aussi un déficit, pas un déficit, mais au niveau des comportements et des activités, ils ont des activités qui sont plus répétitives, des comportements qui sont plus répétitifs. Donc, c'est vraiment ces deux caractéristiques-là qu'on voit le plus souvent, mais comme c'est un spectre, ben ça change selon l'âge, selon les personnes, selon les expériences. Donc, il peut y avoir deux jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme et qui ont des manifestations totalement différentes.
Ce qu'on a pu observer, par contre, c'est les bienfaits de l'activité physique. Est-ce que ça, c'est semblable pour tous les jeunes?
Oui, ben en fait, pour tout le monde qui fait de l'activité physique, il y a des bienfaits qui sont semblables. Là. Donc, augmenter l'estime de soi, que ça améliore... t'as une bonne meilleure gestion du poids, ça donne de l'énergie, mais aussi pour les jeunes avec un trouble du spectre de l'autisme, souvent ils sont hypersensibles, donc que ce soit au bruit, aux textures, il y a des jeunes qui aiment pas ça se faire toucher, donc le fait d'être avec d'autres personnes dans une foule avec beaucoup de bruit, ça peut être plus difficile, mais de faire de l'activité physique puis d'y aller graduellement, ben ça peut diminuer cette hypersensibilité là.
J'imagine que pour eux, c'est un défi de se retrouver dans un gymnase souvent bruyant, avec un éclairage très, très fort, beaucoup de monde.
Oui, souvent pour eux, c'est souvent les jeunes qui sont dans leur bulle. Donc, d'être dans sa bulle, mais d'être constamment avec d'autres personnes qui veulent interagir avec toi, il y a du bruit, uh-huh. Et oui, ça peut être très difficile.
Sur le plan physique, est-ce qu'ils ont des difficultés particulières si on compare avec des jeunes qui ne vivent pas avec un TSA?
Bien, en fait, il y a des jeunes qui ont une problématique au niveau de la motricité globale. Donc, mm-hmm. que ce soit au niveau de l'équilibre, de la coordination, ça peut être plus difficile. Mais comme je vous disais tout à l'heure, un jeune peut avoir autant aucune difficulté au niveau de la motricité globale, que ce soit davantage au niveau social. Mais souvent, ils ont des difficultés puisque s'ils sont pas habitués de faire de l'activité physique, ben ils sont pas habitués à, tu sais, s'ils n'ont jamais joué, par exemple, au hockey de leur vie, ben ils ont pas les habiletés pour le faire s'ils se mettent à jouer à ce sport-là plus tard dans la vie.
Mm-hmm. Mais dans les écoles au Québec, et au fond, vous l'avez fait, cette recherche-là, vous vous êtes adressé à des écoles qui ont, au sein de leur institution, au sein de l'école même, des jeunes qui vivent avec un TSA, est-ce qu'ils sont amenés à pratiquer une activité physique au même titre que leurs collègues?
Bien, en fait, la problématique au niveau des jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, c'est que ça se voit pas. C'est pas écrit dans le... C'est pas comme un jeune qui est en fauteuil roulant.
Ouais.
Tu le vois d'office qu'il est en fauteuil roulant, tandis qu'un jeune avec un trouble du spectre de l'autisme, si tu t'interagis pas avec lui puis tu cherches pas à être en interaction, tu peux ne pas le savoir. Et même si tu interagis avec lui, tu peux ne pas comprendre pourquoi il agit de cette façon-là.
Oui.
Donc, dans les écoles, souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que les intervenants ne savaient pas les intervenants dans leur classe, mais par exemple, les professeurs d'éducation physique, ou s'ils sont dans une classe, pas une classe, mais une activité parascolaire, bien, il est possible que l'intervenant ne soit même pas au courant que le jeune vit avec un trouble du spectre de l'autisme.
Donc, problème de communication.
Un petit problème de communication.
Alors, comment on fait pour améliorer ces stratégies-là? Est-ce que c'est à la base, justement, une meilleure communication entre l'équipe école même que le jeune fréquente?
Oui, 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 tout à fait. En fait, souvent, les professeurs d'éducation physique ne sont pas au courant des problématiques, donc ils agissent pareil avec tout le monde, parce que c'est souvent des gens qui sont intégrés dans des classes régulières. Donc, dans une classe régulière, agit de façon régulière avec tous les jeunes. Donc, si les professeurs, les enseignants sont au courant du trouble, ils peuvent faire des adaptations. Et c'est pas nécessairement des grosses adaptations, c'est juste de prendre conscience et d'être plus sensible à cette réalité-là, dans le fond.
Mm-hmm. Mais parlons-en, justement, Marie-Michel, de ces adaptations-là. Qu'est-ce qu'on peut faire?
En fait, ce qu'on disait tantôt, c'est que ça peut être difficile pour eux d'être dans du gros bruit, de la grosse lumière, des grosses foules, mais l'important, c'est d'y aller graduellement. Si on est alerte, puis si on sait, par exemple, le jeune, tout à l'heure, je vous disais qu'ils ont des comportements répétitifs et des intérêts qui sont plus spécifiques. Si, par exemple, mm-hmm. il y a un jeune que son intérêt, c'est pour les avions, mais il y a rien qui empêche d'adapter une partie de soccer en thématique avion pour que le jeune se sent interpellé. Et il y a aussi le fait d'y aller graduellement, donc de commencer soit à l'individuel, après ça y aller mm-hmm. deux par deux, après ça y aller en grand groupe. Donc ça peut être plus facile pour le jeune après ça d'être mieux intégré dans l'activité.
Mais encore faut-il que les intervenants soient au courant de ces alternatives-là?
Oui, 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 tout à fait.
Et est-ce qu'il y a des stratégies qui sont prises pour ça, des initiatives?
Ben, en fait, au niveau... au niveau du parascolaire ou des activités qui sont plus dans le milieu communautaire, ben les parents, ils sont plus présents. Donc, les parents peuvent informer les intervenants des forces, des limites de leurs jeunes et de comment adapter. Et même dans le groupe école, les intervenants qui suivent ces jeunes-là, ils peuvent informer les enseignants. C'est pas nécessairement des grosses adaptations. Par exemple, si le jeune... Ils manifestent des comportements qui sont inadéquats pour une classe, ben s'il ne sait pas comment réagir, ben ça peut être encore pire, puis le jeune peut encore plus se désorganiser. Mais s'il communique avec l'intervenant qu'il suit, ben il peut interagir de la même façon, avoir une certaine cohérence, une certaine constance entre le cours d'éducation physique et les cours normaux, mm-hmm. les cours plus réguliers.
Même chose à la maison. Je lisais votre rapport de recherche, Marie-Michel, et il y avait des témoignages de parents parce que vous avez parlé à des familles qui vivent avec un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme. Et ces parents-là avaient des témoignages extrêmement touchants, comme ben, dans le cours de natation, parfois, ben oui, j'ai un malaise parce que il veut pas aller dans l'eau ou parce qu'il y a une crise, parce que l'eau est, bon, peut-être pas à la bonne température, quoi que ce soit, ça ralentit le groupe. J'ai le regard des autres parents sur moi et j'aimerais mieux fuir souvent. Est-ce l'impact des parents dans la pratique de l'activité physique d'un enfant, est-ce que ça s'est avéré important selon votre recherche?
Oui, oui, oui. Il y avait même des parents qui veulent, tu sais, souvent dans les activités plus communautaires, ben c'est les parents qui sont les entraîneurs ou c'est les parents qui sont dans l'équipe d'entraîneurs, justement. Puis si le parent, il faut qu'il gère son jeune et que là, il se fait donner la responsabilité en plus d'avoir à gérer l'équipe, mais là, ça peut être plus difficile, ça rajoute un poids encore plus. Mais si l'intégration est bien faite et qu'il y a une bonne communication justement entre l'entraîneur et le parent, ben ça peut être très bénéfique pour le parent, dans le fond, d'avoir que son jeune pratique une activité physique. Ça peut être super bénéfique pour lui.
Et quels sont les souhaits de ces parents-là, outre la bonne communication entre l'entraîneur parascolaire et lui-même, finalement? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils aimeraient voir se mettre en place?
Mais en fait, on passe là, pour l'instant, on a parlé de l'entraîneur, mais il y a aussi les jeunes dans le groupe. Par exemple, dans le groupe école, dans la classe, les jeunes sont souvent au courant du trouble du spectre de l'autisme du jeune qui est intégré dans la classe. Mais si le jeune arrive dans un nouveau groupe avec des nouveaux jeunes qu'il connaît pas, ben il faut informer ces jeunes-là de ben ce petit garçon-là, par exemple, l'informer du trouble, de comment il vit ça, de comment
les caractéristiques, oui.
C'est ça. Donc, tu sais, de préparer les jeunes, parce que sinon, si il peut avoir la meilleure communication du monde entre le parent puis l'intervenant, mais si ça se fait pas non plus au niveau des jeunes, ben il peut avoir une problématique à ce niveau-là aussi.
Mm-hmm. Ça amène quoi la pratique d'un sport pour une famille et la fratrie également? Au sein même de la dynamique familiale?
Mais en fait, j'ai fait ma maîtrise justement sur ce sujet, mais pas nécessairement avec des troubles du spectre de l'autisme. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ça peut l'implication du jeune dans une activité physique, ben ça peut amener justement la fratrie à s'impliquer aussi dans cette activité-là. Par exemple, c'est pas parce que étant donné que le jeune souvent est intégré dans une activité régulière, ben il y a rien qui empêche que son petit frère ou sa grande sœur soit aussi impliqué dans cette activité-là. Donc ça peut être une activité familiale, même si les parents ne sont pas automatiquement dans l'activité et pratiquent pas le même sport que leur jeune.
J'imagine que par la bande, ça aide le jeune à développer, parce qu'on en parlait un petit peu plus tôt dans l'entrevue, tisser des liens interpersonnels, tout ça, c'est un petit peu plus difficile parfois pour ces jeunes-là. Donc déjà, de pouvoir le créer au sein même de la famille, ça peut aider après à l'extérieur.
Oui, tout à fait. Donc ça peut être sécurisant aussi pour lui de voir, par exemple, son frère ou sa sœur avec lui dans l'activité. Bien, ça lui donne une certaine constance, une certaine cohérence avec à la maison. Donc, il peut se sentir beaucoup mieux que si c'est seulement des inconnus qu'il connaît pas. Ou même si on commence l'activité graduellement, ben si, par exemple, le jeune est intégré avec un autre jeune régulier, par exemple, pour faire du karaté, ils font du karaté ensemble, les deux, mais quand ils vont être dans le grand groupe, ben ce jeune-là va être aussi avec lui, donc ça va être plus sécurisant aussi pour lui à ce niveau-là.
La routine est souvent bien importante, hein?
Oui, oui, oui.
Ouais.
Oui, oui, très, très important. Souvent, c'est avec les jeunes qui ont un TSA, on utilise des pictogrammes, on utilise une routine qui est toujours fixe, qui est toujours la même. Donc, dans les activités, c'est souvent important aussi que ça se répète et qu'il n'y ait pas peur de se répéter à chaque cours. Comme ça, ça va sécuriser le jeune aussi en même temps.
Est-ce qu'il y a des sports ou des activités qui leur conviennent mieux? On parlait de karaté, on a parlé d'hockey, qui est complètement différent comme pratique sportive. Est-ce que certaines activités leur conviennent mieux, Marie-Michel?
Ben, en fait, c'est ce qu'on a parlé tantôt, par exemple, avec les activités aquatiques. Mais si le jeune n'a jamais été dans l'eau avant de faire des activités aquatiques, c'est peut-être pas la meilleure chose. Mais par exemple, des activités qui sont très structurées et qui sont très évolutif. Par exemple, le karaté, ben il y a des ceintures, il faut atteindre des objectifs. Donc, c'est très clair comme activité physique, contrairement à, par exemple, le hockey, qui peut être plus complexe, puisque le jeune peut comprendre que oui, oui, j'ai à tenir mon bâton et à pousser la rondelle, mais ça peut être plus complexe, les stratégies de jeu et tout ça peut être plus complexe.
Mm-hmm. Est-ce qu'il faut privilégier un sport d'équipe ou c'est préférable de débuter avec un sport plus individuel?
En fait, ce qui est important, c'est d'y aller graduellement. C'est sûr que les sports individuels, c'est sûr que c'est une très bonne idée. C'est des très bons sports pour ces jeunes-là, mais si l'intégration se fait graduellement dans les sports d'équipe, ça peut être tout aussi bénéfique.
OK. Parmi les écoles contactées, est-ce qu'il y a des initiatives qui vous ont touché particulièrement au sein de différentes écoles, par exemple, de dire « OK, il y a ce type de programme sportif-là et ça fonctionne bien, ça aide les jeunes, ils se sentent inclus et ils peuvent pratiquer une activité sportive? »
Bien, dans une école, il y avait des activités de parrainage. Donc, il y avait un jeune du régulier qui venait aider un jeune mm-hmm. avec un TSA. Et souvent, le TSA était intégré, par exemple, dans le cours d'éducation physique. Dans ses classes régulières, le jeune était dans une classe adaptée, mais il pouvait aller dans une classe régulière d'éducation physique avec son parrain. Donc, il pouvait être intégré dans une classe plus régulière. Donc, ça l'amène à pratiquer avec des jeunes qu'il ne voit pas nécessairement tous les jours, puisqu'ils ne sont pas dans la même classe. Mm-hmm. Et ça l'amène à voir une autre dynamique. Donc, ça m'a vraiment impressionné, puisque en même temps, bien, ça sensibilise les jeunes à ce qu'il y ait des jeunes. Ben oui, il y a des jeunes qui ont des
différences. Oui, oui.
Et ils ne seront pas toujours à l'école, ces jeunes-là, quand ils vont être dans la. Quand ils vont être des adultes, ils vont être dans la vie de tous les jours. Donc, d'apprendre à vivre avec eux à l'école, ben c'est bénéfique pour tout le monde.
Ouais, et à reconnaître que la différence, ça peut devenir une force également.
Oui, oui, oui.
Ouais.
Tout à fait, parce que ces jeunes-là ont des forces que les jeunes que d'autres jeunes n'avaient pas nécessairement. Donc c'est bon, c'est aussi bon de toucher sur ces forces-là. Mm-hmm. Avec un jeune qui n'a pas de limitation fonctionnelle.
En terminant, Marie-Michel, est-ce que ce rapport de recherche-là va permettre de contrer, parce que, je le disais en ouverture, 40 % de plus de probabilité que les enfants qui ont un TSA soient obèses. Est-ce que les études que vous avez pu mettre sur la table vont éloigner ou peut-être amenuiser ce chiffre-là?
Bien, on le souhaite fortement. En fait, justement, le rapport de recherche, on a développé un guide qui est tout à fait accessible pour les intervenants, oui. pour les parents, et disponible en ligne. Donc, on développe ce genre de guide-là pour que ça soit utilisé et non pas pour que ça soit sur une tablette. Donc, si les personnes les utilisent puis mettent en place des super projets pour intégrer le plus de jeunes possible, bien, c'est sûr que ça va diminuer ce dramatique pourcentage-là.
Oui. On mettra en lien sur notre site votre projet d'étude, Marie-Michel Duquette, étudiante à la maîtrise en loisirs, culture et tourisme à l'Université du Québec à Trois-Rivières, également membre de l'équipe de recherche associée au projet Choisir de gagner. Merci beaucoup et puis bon après-midi à Shawinigan.
Ben, merci beaucoup à vous aussi. Bon après-midi.
Bye-bye.
Bye-bye.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Michel Sancartier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordonnateur au service de nutrition clinique de l'Institut universitaire en gériatrie de Montréal, également l'animateur de cette conférence qui s'appelle « Manger mieux, c'est mieux » ou « Manger mieux, c'est bon pour la santé », Michel.
Effectivement. On a essayé de trouver un titre accrocheur qui n'était pas seulement « nutrition et vieillissement », mais le thème principal, c'est bien évidemment « nutrition et le vieillissement du... l'impact du vieillissement sur la nutrition.
Parce que vous allez aborder ça, toutes les mythes, les réalités également qui entourent la nutrition des personnes âgées. Il y en a plusieurs et bien sûr, il faudra assister à cette conférence qui est gratuite, je le répète, pour en savoir davantage. Un mythe, bon, on va y aller comme ça, mythe et réalité. Mm-hmm. Le goût chez les personnes âgées, est-ce que c'est vrai qu'il est altéré, donc qu'il change, qu'il se modifie?
En fait, le goût, la perception du goût, c'est le mélange entre les papilles gustatives et l'odorat. Donc, quand on a une sinusite, hein, on sait très bien, on goûte moins bien ou on goûte différemment. Donc, les deux fonctions, les deux sens vieillissent avec l'âge. L'odorat commence à vieillir vraiment de façon assez significative vers l'âge de 60 ans. L'odeur des aliments devient un facteur important aussi. La même chose pour les papilles gustatives. Hein, on goûte quatre saveurs. Le salé, le sucré, l'acide et l'amer. C'est les saveurs principales. Il y en a une cinquième, mais celle-là, c'est l'astringent, là, que la banane pas mûre. Là, Donc, chez la personne âgée, on a une réduction de la discrimination des saveurs. Avant, on pensait que c'était surtout le sucré, mais là, on s'est rendu compte que vraiment les quatre saveurs vont avoir une réduction au niveau de la perception. Ce qui veut dire que lorsqu'une personne très âgée va manger une banane, un fruit, de la viande, elle va le goûter, mais moins que nous. Donc, quand on demande aux personnes âgées « Est-ce que vous goûtez bien? » Tout le monde me répond depuis 25 ans « Je goûte bien, oui. » Mais la réduction, elle est tellement sensible et tellement graduelle que les études ont été faites dans des groupes de jeunes et des groupes de personnes âgées, et on leur demandait quelle saveur on a dans un petit liquide d'eau. On mettait un petit peu de sucre, un petit peu de sel, et les jeunes étaient capables de dire « Ah, ça, c'est du sucre, ça, c'est du salé, ça, c'est de l'acide, ça, c'est de l'amer », bien avant les personnes âgées. Mm-hmm.
Mais est-ce que ça veut dire, Michel, qu'il faut rehausser leur plat, il faut mettre plus de sel? J'ai l'impression que non, là, mais vous allez me le dire.
En fait, il faut rehausser la saveur, l'ensemble des saveurs. Le sel, c'est une partie des saveurs. Commencer une restriction en sel quand on est âgé, c'est un défi parce que là, les aliments, ils nous le disent, ça ne goûte plus rien. Mm-hmm. Donc, on met plus de saveurs, plus d'herbes, plus de gras qui va rehausser la perception des saveurs. Si on prend du sucre tout seul puis qu'on le mélange avec le gras, le sucre va goûter beaucoup plus. Ouais. Alors que si on prend le sucre, donc on ne change pas nécessairement les quantités, mais le gras va ajouter de la perception de la saveur, et ultimement, les personnes vont goûter, vont apprécier mieux
les aliments. Et c'est important,
il
faut que ça demeure un plaisir manger qu'on ait 65, 85 ou 16 ans. Hein?
Exactement, il faut que ça soit un plaisir.
Les portions, est-ce que l'appétit se modifie? Est-ce qu'il faut ajuster les aliments, le nombre d'aliments dans l'assiette?
Donc, la perception de la faim et de la soif, ce sont mm-hmm. des perceptions qui sont gérées par des hormones, le cerveau, plein de neurotransmetteurs là, qui nous donnent ces perceptions-là. Donc, une personne qui a un poids stable, bien, on peut dire qu'il a ses perceptions d'appétit et de satiété. Donc là, quand on a plus faim et qu'on arrête de manger, sont bien équilibrées.
On les reconnaît bien. Ouais.
Exactement. Donc, la personne âgée va perdre tranquillement cette perception-là de la soif et de la faim. Donc, on a mis des jeunes pour la soif, ça a été bien documenté. On les a déshydratés avec de l'exercice, puis on les a sevrés en eau. On a fait les mêmes exercices chez les personnes âgées, on les a sevrés en eau, et après ça, on leur a demandé « Allez vous réhydrater ». On dit « ad libitum hein, », autant que vous voulez. Les personnes âgées ont bu juste un peu, mm-hmm. et les jeunes ont corrigé complètement leur déshydratation. Donc, la même chose pour la faim. Donc, la faim, lorsqu'on prive une personne âgée de manger, et ça peut arriver hein, chaque fois qu'on est malade.
Oui.
Quand on tombe malade, on a un rhume, on a une grippe, qu'est-ce qu'on fait? On se fait une petite soupe, on mange moins bien parce qu'on n'a pas faim. Un jeune, puis les gens sont bien satisfaits. Des fois, j'ai eu un bon rhume. Pendant 3 semaines, j'ai perdu quelques livres. Mm-hmm. La personne âgée qui a perdu ces quelques livres-là ou quelques kilos, elle ne les récupérera pas, alors que le jeune va récupérer le poids perdu.
Et ça m'amène à parler de dénutrition. Souvent, on est inquiet, on associe vieillissement et dénutrition beaucoup. Je vous écoute, ça a l'air inévitable.
C'est un peu inévitable et c'est un constat malheureux qu'on doit faire. On a 42 % des personnes âgées à domicile qui sont à risque de dénutrition.
C'est
donc,
énorme.
Donc, ce n'est pas un petit chiffre. Là.
Non,
c'est...
non.
Et la dénutrition peut survenir même chez les obèses. Ce n'est pas parce qu'on est gras qu'on n'a pas de dénutrition. Mm-hmm. Là. Donc, et lorsque on a, avec tous ces facteurs-là, la faim, la soif qui est moins bien dosée, moins bien
reconnue
en équilibre,
aussi,
moins bien reconnue, bien, tous ces facteurs-là font en sorte que ça met les éléments, ça met la table à une augmentation de la dénutrition. Et c'est un fléau.
Ouais.
C'est un fléau qu'on ne parle pas autant que l'obésité, mais c'est un fléau actuellement qui doit être adressé à la population.
Ce qui veut dire que le poids n'est pas révélateur de bonne ou mauvaise santé, en tout cas du moins chez la personne âgée.
Le poids est un indicateur extrêmement important.
Okay.
Ce n'est pas l'indicateur unique. Nous, quand on fait une évaluation nutritionnelle, on va regarder l'histoire de poids, on va regarder les apports alimentaires, on va regarder si les personnes mangent relativement bien et satisfaits à l'ensemble des besoins, à leur ensemble de tous les besoins. En énergie, en protéines, en gras, en vitamines, en minéraux. Et par la suite, on regarde une analyse sanguine.
Mm-hmm.
Les réserves, donc dans les analyses sanguines, on peut dire s'il y a des réserves adéquates ou il y a des réserves qui commencent à réduire ou carrément qu'il y a des déficiences dans le sang.
Et là, ça devient complet. Michel, au sein de cette conférence, il y aura également Mallory Nocousineau, qui est une chef qui sera là pour papoter des bons plans pour les personnes présentes lors de la conférence. Et je rappelle que cette conférence est gratuite, offerte le 4 décembre à l'Institut universitaire de gériatrie. Hein, c'est bien ça,
oui.
Michel?
Oui.
C'est vous qui animez. Mangez mieux, c'est mieux. On mettra toutes les coordonnées sur notre site également pour que les gens aient toutes les coordonnées nécessaires.
C'est beau.
Merci beaucoup, Michel Sancar. Ça faisait longtemps que je voulais vous rencontrer et c'est fait. J'en suis très, très heureuse.
Merci à vous.
www.iugm.qc.ca. En passant, merci Jean-Sébastien Laliberté à la console. Très contente de passer cette semaine avec toi. C'était Marianne Paquette qui vous salue. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.